BFM Business présente. BFM Entreprise, les outils RH. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Entreprise, l'émission qui plonge au cœur des boîtes tout au long de la semaine. Le lundi, vous le savez, on vous parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance et le jeudi de transmission. On est aujourd'hui sur les outils RH et cette question, comment les fonctions support sont-elles impactées par l'intelligence artificielle? Quelles conséquences sur les compétences des collaborateurs? On va répondre à ces questions et aux vôtres avec mes invités, Cyril Cueno, Managing Partner, directeur RH et transformation chez SIA. Je vais y arriver. Bonjour Cyril. À vos côtés, Boutena Burkel, fondatrice du cabinet de conseil The Helper et auteur. Bonjour Boutena.
Bonjour.
Et notre juriste Malik Douaoui, associé au cabinet d'avocats Deloitte. Bonjour Malik.
Bonjour Franck.
Ravi de vous retrouver. BFM Entreprise, les outils RH. C'est parti.
BFM Entreprise, les outils RH.
Posons-nous la question directement. En quoi, nous demande Robert, l'intelligence artificielle transforme-t-elle aujourd'hui les fonctions support dans les entreprises? On rappelle déjà ce que c'est que les fonctions support. Cyril.
Alors oui, c'est l'ensemble des fonctions qui sont en appui des activités cœur d'une entreprise, avec un rôle de conseil, un rôle d'exécution d'un certain nombre de tâches au bénéfice de l'activité centrale de l'entreprise.
Donc on peut dire que effectivement, elles sont même peut-être les premières à être impactées dans l'entreprise par le développement de l'intelligence artificielle.
En tout cas, elles le sont de manière très significative,
oui.
Avec une restructuration en profondeur. Et ces fonctions qui ont été longtemps perçues comme des fonctions plus administratives deviennent avec l'IA des fonctions à plus forte valeur ajoutée où on y trouvera des éléments de conseil, d'aide à la décision et finalement, bien évidemment, une augmentation de la performance.
C'est l'idée, évidemment. Que l'IA nous débarrasse finalement de ce qui n'est pas intéressant, des missions à faible valeur ajoutée, Boutena.
Très intéressant comme métier, les fonctions support.
Oui.
Même au cœur de porter en fait le savoir et la production, l'opérationnel. Mais par contre, la particularité, c'est que c'est des savoirs qui sont encyclopédiques. Donc on a dedans les RH, la finance, parfois du marketing si c'est pas au cœur de l'opérationnel. Et on va considérer qu'on peut les déléguer enfin, parce que d'une certaine manière, les LLM vont, donc l'IA générative, vont encapsuler tout le savoir encyclopédique. Et les fonctions support ont été préservées jusque-là par la numérisation d'une certaine manière. Et sont aussi un peu, on va dire, les parents pauvres sur lesquels on n'a pas vraiment investi en matière de digitalisation. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des pressions sur la rentabilité. Après avoir externalisé en Roumanie, au Mexique, des centres de services ou des centres de compétences centralisés, qu'aujourd'hui, en fait, on a besoin d'aller encore plus loin. Et oui, à ce moment-là, les IA sont intéressantes.
Il y a le juridique dans les fonctions support. Évidemment, Malik, il y a Vanessa qui nous demande quel impact l'IA a typiquement sur les professions juridiques et le métier d'avocat en particulier. Moi, je ne vous cache pas que quand on a commencé à parler sur cette chaîne d'intelligence artificielle, le premier métier auquel j'ai pensé, c'est le vôtre.
Mais vous avez raison, Sandra. Et je pense que beaucoup d'avocats sont à la fois sans doute inquiets de l'arrivée de l'IA et confiant aussi dans leur capacité à s'adapter à l'IA et surtout à tirer parti de l'IA. Parce qu'on l'a dit clairement sur les fonctions support qui, effectivement, traditionnellement, pour moi, souffrent d'un déficit d'image. Et c'est pour eux l'opportunité de montrer qu'elles sont efficaces et au service des autres fonctions. Et pour en revenir aux professions juridiques, j'allais dire que l'IA, c'est, et c'est pas seulement vrai en réalité des professions juridiques, parce que je pense que c'est vrai de toutes les activités, y compris les activités de recherche d'ailleurs, en maths, en biologie, ça bouleverse réellement la méthodologie de recherche. Pour les professions juridiques, c'est un impact qui est de mon point de vue absolument majeur, même si, il faut le garder en tête, on assiste à une montée en charge progressive de l'IA. Donc là, c'est juste l'IA à ses premiers balbutiements. Et on voit déjà que les premiers balbutiements transforment la profession juridique. En deux mots, j'allais dire, pour faire court, pour moi, l'IA, c'est aujourd'hui un super assistant juridique.
Mmh.
C'est un super assistant juridique parce que d'abord, c'est un outil de recherche documentaire. Donc, et donc, qui accroît votre efficacité dans la recherche. On va beaucoup plus vite et on trouve beaucoup plus de choses. C'est un outil aussi de production. On va se servir de l'IA pour faire un contrat, pour faire des lettres. On peut servir de l'IA aussi pour comparer des documents. L'exemple typique, par exemple, pour ne parler que du droit du travail, c'est que vous avez deux conventions collectives différentes qui sont très longues, et grâce à l'IA, à Claude ou à d'autres, vous allez procéder à un benchmark, à une comparaison, thème par thème, des deux conventions collectives. C'est aussi un outil qui va vous permettre, et ça on l'utilise beaucoup, de détecter certaines anomalies. On le voit clairement, par exemple, l'IA, je disais tout à l'heure, c'est un outil de production, on produit et on produit dans toutes les langues, en particulier en anglais. Donc moi, je vois que le niveau de l'anglais monte dramatiquement dans nos entreprises. Ce n'est pas l'effet de la qualification des individus.
Non.
C'est l'effet de l'utilisation massive de l'IA.
Oui, effectivement.
Donc l'IA change beaucoup les choses.
Ça change les choses. C'est presque, comme vous le dites, comme on est encore à un stade précoce de sa prise en main, finalement, on ne sait pas encore ce que ça va donner. C'est un peu ce que nous allons en faire, nous, à travers les entreprises. Il y a Patricia qui vous demande, Cyril, peut-on parler d'une véritable révolution de ces fonctions support ou plutôt d'une accélération justement de leur transformation digitale?
Alors c'est probablement une rupture dans la continuité dans la prolongation de la transformation digitale qui est lancée depuis des années avec tous les mouvements relatifs à l'automatisation d'un certain nombre de tâches, la capacité à bénéficier de systèmes d'information puissants. Mais là, on va aller beaucoup plus fort, mais surtout beaucoup plus vite.
Oui.
Quand on a mis 7 ans pour mettre en place Internet, on voit que les grands moteurs les LLM peuvent bénéficier d'un nombre d'adhérents, plusieurs centaines de millions, en quelques jours. Voilà, donc ça montre bien aujourd'hui cette évolution dans le rythme. Et donc oui, hein, il y a une forme d'accélération, mais il y a aussi une rupture qui est plus qualitative avec le type de tâches qui sont concernées. Avant l'IA, on va dire l'automatisation s'adressait à des tâches relativement simples. Aujourd'hui, l'IA attaque des tâches où il y a une sensibilité cognitive assez forte, où on va avoir des logiques de raisonnement assez poussé. Mmh. Et donc, ça amène finalement à repenser ces fonctions support d'une approche d'exécution à une approche où on va être plus dans l'aide, enfin la préparation, l'aide et la prise de décision.
Oui, l'humain va être là. Boutena.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, en fait, les grandes entreprises en particulier utilisaient des licences Microsoft, Pilot, pour ne pas les citer de manière spécifique, mais c'est, on va dire, l'architecture de base, le système d'exploitation pour beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, et elles ont été déçues. Quand elles ont commencé à prendre quelques licences Pilot, elles se sont rendues compte que le résultat n'était pas si incroyable, mais surtout parce que les données sur lesquelles elles ont entraîné localement n'étaient pas d'une très bonne qualité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, avec Anthropic, Claude a sorti même des business cases très spécifiques, fonctionnels, donc spécialisés dans le juridique, spécialisés dans la comptabilité, spécialisés dans le design et le marketing. Donc là, on est passé à un niveau de sophistication et de rendu qui est bien meilleur que celui qu'on a eu il y a quelques mois.
Cyril ?
Voilà, et pour autant, le sujet de la donnée est complètement structurant, hein. C'est-à-dire que déployer une IA aujourd'hui pour une fonction support sans avoir fait ce travail préalable de fiabilisation, de nettoyage des données, c'est déployer quelque chose plus rapidement, mais qui ne sera pas fiable. Donc il y a d'énormes chantiers préparatoires à des déploiements d'IA sécurisés et maîtrisés.
Et il ne faut pas le faire n'importe comment, Malik.
Peut-être juste pour compléter les explications, Cyril, révolution ou pas, je pense que c'est une vraie révolution. Et je pense que l'analogie qui a été faite tout à l'heure par Cyril avec, j'allais dire, Internet est une excellente analogie, avec les réserves qu'il a commencé à esquisser, et je rejoins complètement Cyril, c'est que ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite qu'Internet. Cyril rappelait tout à l'heure, c'est plusieurs années avant qu'on ait le déploiement, j'allais dire, d'Internet complet.
Et c'est là quel danger,
en particulier.
C'est là quel danger, Malik.
Absolument. Alors, à la fois un danger, vous savez, c'est à la fois danger et opportunité. C'est aussi une chance pour certains, même si, alors là, on peut faire aussi de l'IA une sorte de dystopie. On pense tout le monde, par exemple, à 2001, l'Odyssée de l'espace, le fameux HAL qui prend le contrôle du vaisseau spatial, ou même Terminator. Hein, Terminator, le jugement dernier, c'est la fin des hommes. Et donc, c'est la machine qui contrôle l'homme. Ça, on peut faire aussi cette dystopie-là. Même si, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure hors plateau avec Magnifica Humanitas, donc la magnifique humanité qui est la première encyclique du pape Léon XIV, ou qui dit clairement, j'allais dire, que l'IA est une révolution anthropologique, donc qui va replacer, j'allais dire, le rôle de l'homme dans la société.
Justement, Florence nous demande, est-ce possible de gagner en qualité de travail, Boutena, plutôt que de passer ses journées à corriger l'IA? Parce que, en fait, c'est ça qui va se passer. l'IA va donner ce qu'on va en faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a des endroits, ça va bien se passer. D'autres, beaucoup moins.
Ben, en fait, ça dépend de l'architecture avec laquelle on va penser l'organisation. Et c'est, si on veut penser l'organisation IA native ou IA compatible, comme ce qu'on a fait sur le digital, ça va pas fonctionner. Si on veut mettre l'IA en début de chaîne et c'est elle qui va répartir le travail à l'humain en lui disant quoi corriger, ça va pas être sympa.
Ça va peut-être être ça dans un premier temps.
Oui, mais on peut réfléchir autrement. C'est-à-dire que typiquement, on a des exemples avec des entreprises, des services numériques où en fait, les développeurs donnent des choses à l'IA. Donc, je caricature complètement. Il y a des artefacts, il y a des skills. Donc, c'est les termes utilisés entre autres par entreprise. Donc, on va dire ce que vous savez, ce que vous devez savoir et comment les exécuter. Mmh. Si je caricature, à l'excès. Mais la question, c'est qui les donne. Donc, c'est là, l'humain. Et ensuite, qui le fait? C'est l'IA. Mais après, il faut encore corriger à plusieurs reprises. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des agents IA. Et là, ça va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement sur certaines activités.
Tout à l'heure, vous parliez du travail préparatoire qu'il allait falloir faire dans chaque entreprise pour justement correctement nourrir l'IA, en donner juste. Est-ce que ces entreprises, les entreprises, ont conscience de ça?
Elles commencent à avoir conscience de ça et il y a deux typologies d'entreprises. Les entreprises qui prennent les devants et qui tout de suite commencent à structurer une forme de gouvernance de ces sujets IA, une gouvernance qui se positionne au plus haut niveau et qui réfléchit sur les modèles d'organisation IA. C'est-à-dire, après la déferlante ou pour gérer la déferlante de l'IA, comment repenser mon entreprise dans son organisation, dans son fonctionnement. Et c'est probablement ça qui va faire que ça marchera. C'est ça qui fera aussi que les collaborateurs, les managers, les décideurs vont s'embarquer, vont se positionner par rapport à ces sujets IA. Et c'est probablement ça qui va permettre aussi de mesurer l'efficacité de ces déploiements IA. Alors aujourd'hui, avec des approches qui sont encore très orientées POC, hein, Proof of Concept ou expérimentation, hein, qui sont des activités, on va dire, un petit peu unitaires, nous, on est convaincus qu'elles doivent s'inscrire dans une réflexion d'ensemble de l'entreprise, dans le cadre d'une trajectoire qui n'est pas l'enchaînement d'initiatives, l'enchaînement de déploiements, mais bien repenser l'entreprise autrement.
Il y a un travail dantesque dans les entreprises. Effectivement, on ne va pas pouvoir mettre un peu d'IA par-ci, un peu d'IA par-là, sans repenser toutes les strates, Malik.
Non, mais complètement d'accord. Là encore, pour compléter les propos de Cyril avec lesquels je suis complètement d'accord, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grande entreprise qui ne se préoccupe pas de l'IA. C'est un sujet de discussion de tous les conseils d'administration et de tous les COMEX, tous les comités de direction. Donc, tout le monde s'intéresse à l'IA. Et je pense qu'en réalité, la plupart des entreprises ne savent pas encore par quel bout prendre l'IA. Elles voient dans l'IA d'abord une chance de gagner en rentabilité, gagner en efficacité. Et la première question qui se pose aux entreprises, c'est quels outils? Alors, on commence par acheter des licences, en particulier Copilot. Donc ça, c'est facile. Et après, il faut évidemment former les collaborateurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire des outils? C'est le vrai sujet. Et vous le disiez tout à l'heure, Sandra, la question qui se pose fondamentalement, c'est que tous les métiers, en particulier fonctions support, sont impactés par l'IA. La vraie question, c'est comment c'est impacté? Quelles sont les tâches qui reviennent à la machine et à l'IA? Et quelles sont les tâches qui reviennent à l'homme? Et on le voit clairement, par exemple, dans les fonctions HR aujourd'hui, et en particulier dans le recrutement. Beaucoup d'entreprises se servent des outils IA pour trier les CV.
Oui.
Pour trier les CV ou faire les PV. Quand j'ai un PV d'interview, un procès verbal d'interview, eh bien c'est souvent l'IA qui va me permettre de le construire. Et parfois même, il y a du tri aussi pour choisir quel est le candidat qui va être choisi finalement. L'intervention humaine, c'est l'interview. C'est l'interview et donc le subjectif qui va avec ça. Mais donc, il y a un vrai sujet sur quelle répartition des rôles. Qu'est-ce qui revient à l'IA et qu'est-ce qui revient à l'homme?
Et encore, l'IA, on en parle souvent dans cette émission en matière de recrutement, justement. Mais ne serait-ce que sans parler de recrutement et d'arrivée d'éléments extérieurs, comment on s'organise, même ne serait-ce qu'avec la masse salariale qu'on a déjà là, comment on organise les activités, nous demande Mehdi, pour intégrer justement l'IA correctement dans l'entreprise.
En fait, s'il n'y a pas une adhésion des équipes en matière de projet, ça va échouer, même ils vont saboter pour des raisons simples. On leur explique toute la journée qu'ils vont être remplacés. Il y a eu des cas récemment aux États-Unis où les étudiants ont hué des grands dirigeants venus leur raconter que l'IA était une révolution géniale pour eux. Donc, aujourd'hui, il y a une crise existentielle,
oui,
mainstream, sur ce que va faire l'IA dans le travail. Donc, il faut arriver à rassurer. Il faut arriver aussi à expliquer, ce qui est très difficile aujourd'hui parce qu'on a une, l'impression d'une boîte noire. Donc, il faut arriver même à rentrer dans ce que veut dire une IA, faire des formations techniques. Mais le problème, c'est que ça va très vite. Donc, il faut apprendre, expérimenter et très vite. Et arriver à un deal, moi j'appelle ça même le new deal du travail, qualité de vie au travail, intérêt du travail réel. Autrement, ça va échouer.
C'est ça que ça va changer, c'est tout ce que ça va changer. C'est l'intérieur de l'entreprise, c'est comment on considère le travail, Cyril, c'est général.
Alors c'est général, il va falloir investir sur cette dimension humaine dans un premier temps l'acculturation, et on voit qu'aujourd'hui on n'est pas tout à fait au même niveau dans les entreprises. Cette acculturation, c'est j'ai compris ce qu'était l'IA, j'ai compris ce que pouvait apporter l'IA, et je suis capable de formuler des instructions, le prompting, à peu près clair. Voilà. On voit bien qu'il y a ce deuxième niveau qui sera on va dire les compétences métiers augmentées, où là, je vais être en capacité d'avoir une analyse critique. Je vais être capable de challenger l'IA, parce que l'IA va générer, dans certains cas, des horreurs.
Oui.
Et notamment sur une dimension juridique, comme évoquait Amélie tout à l'heure, la capacité à vérifier qu'on sort d'un contrat correspond bien à ce qu'on attend du contenu de ce contrat. Et puis la troisième dimension, ce sera vraiment les compétences augmentées, c'est-à-dire la capacité à être dans des logiques de décision, la capacité de se mettre dans une logique de conseil, de conseil à très forte valeur ajoutée, et le tout en ayant tous les éléments pour structurer ces programmes d'apprentissage où il va falloir, et c'est ça le paradoxe, apprendre et désapprendre. Ça va tellement vite que sur la base d'une technologie aujourd'hui qui apporte une valeur qui est structurante, demain elle sera peut-être complètement obsolète, ou une manière d'approcher la logique algorithmique actuellement qui sera totalement différente de celle de demain.
Il y a un très gros travail de, comment dire, les entreprises vont devoir effectivement, comme vous le disiez, rassurer leurs collaborateurs, et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une bonne chose de leur dire formez-vous à l'IA, mais plutôt à l'entreprise de dire dans notre entreprise, typiquement, nous aurons besoin de ça, nous allons te former à ça, et tu seras, dans le cadre de cette entreprise, après parfaitement apte à te, finalement, te couler dans ce nouveau poste.
Oui, il faudra gérer les trois peurs, la peur de la perte de l'emploi,
oui,
la peur de ne pas savoir utiliser l'IA, la peur de ne pas être en capacité de monter en expertise sur les sujets de l'IA.
Justement, il y a Victor qui vous demande, Malik, le salarié peut-il s'opposer à l'introduction de l'IA dans son entreprise ?
Ça, c'est une bonne question. Alors, j'allais dire d'abord, dans une entreprise, on vit dans un monde capitaliste. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui veut donc dire que c'est l'employeur qui décide. Et que le pouvoir de résistance, j'allais dire, du salarié, il est forcément limité. C'est-à-dire que du côté du salarié, le principal bouclier, pour moi, c'est le contrat de travail. Et donc, l'employeur ne peut pas imposer une modification du contrat de travail au salarié. Or, on voit bien, on l'a dit, qu'il faut embarquer les salariés, et que, comme l'a rappelé tout à l'heure Cyril, le salarié peut avoir peur de l'IA, ne serait-ce que parce que l'IA peut le tuer. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'études qui circulent en disant l'IA va détruire des emplois. On l'a vu aux États-Unis, il y a une étude qui annonce qu'il y a près de 50 000 emplois qui ont été détruits depuis 2026. Il y a une étude très récente de la COFAS qui nous dit à horizon 5 ans, c'est 16% des emplois en France qui sont menacés, en particulier les fonctions support, en particulier les fonctions juridiques. Donc il y a une vraie peur, j'allais dire, existentielle de disparaître,
ouais,
à cause de l'IA. Et donc, évidemment, le salarié pourrait dire, écoutez, si vous modifiez mon contrat de manière telle que vous modifiez mes responsabilités, au fond, mes responsabilités disparaissent parce qu'elles sont mangées par l'IA. Là, c'est une modification de mon contrat. Et le salarié peut dire stop. C'est pas encore. C'est stop, on arrête là. Le stop, mais ça veut dire le licenciement possible du salarié, avec l'obligation pour l'employeur, évidemment, de justifier ce licenciement pour motif économique. Mais avant d'en arriver là, je pense que la première obligation de l'employeur, c'est de former ses collaborateurs.
Rassurer.
Former ses collaborateurs. Former ses collaborateurs à l'utilisation de l'IA, parce que l'IA, ça doit d'abord être un outil positif et pas un outil de destruction de valeur dans les entreprises. N'empêche qu'à mon avis, l'IA avait créé de fortes inégalités entre les entreprises qui utilisent l'IA, parce qu'il faut se payer les licences. Aujourd'hui, c'est le coût d'une licence, mais peut-être que aujourd'hui, on sait bien que toutes les entreprises qui développent l'IA sont des entreprises qui perdent des milliards. Or, ce sont des entreprises qui, en même temps, investissent des milliards pour développer l'IA. Donc il faut qu'à la fin, le modèle soit rentable. Et pour qu'il soit rentable, peut-être que ça ne va pas être le coût forfaitaire d'une licence, mais à chaque prompt, à chaque demande que vous ferez, vous devrez payer. On sait que ChatGPT, selon la version qu'on utilise, on peut payer au prompt. Et là, c'est beaucoup plus rentable pour un fournisseur d'IA de faire payer au prompt plutôt que de vous donner forfaitairement droit à l'utilisation de l'IA.
Il y a des comparaisons récentes comme quoi payer des tokens, donc les jetons, ont été, ce fait-là a été supérieur que de payer une masse salariale. Parce que pour certaines entreprises, la consommation de tokens a été tellement élevée que ça a dépassé le coût du travail. Mmh. En parallèle, vous avez ce matin, le fondateur, donc Sam Altman, qui dit qu'on est peut-être allé trop loin dans l'histoire des licenciements RH et que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Donc, eux-mêmes commencent à comprendre que s'ils continuent à justifier certains licenciements, comme ce qui s'est passé dans une grande entreprise américaine récemment, de dire qu'ils licencient parce que l'humain est inapte à se former à l'IA, c'est dangereux pour la suite des affaires.
Oui.
Donc c'est là où il faut arriver à un dialogue, à une forme de consensus quelque part, pour financer aussi les investissements et les capex qui sont quand même assez considérables.
Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez beaucoup des États-Unis et c'est souvent en matière de licenciements brutaux qu'on choisit cet exemple. Oui, mais heureusement, le droit français quand même protège davantage les salariés. Les entreprises agissent pas de la même façon et les délais ne sont pas les mêmes. Donc heureusement, en France, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Il y a François qui nous demande, pour continuer ce que vous disiez tout à l'heure, Cyril, quelles nouvelles compétences les collaborateurs des fonctions support vont-ils devoir développer justement cette ère où l'IA va prendre de la place?
Alors, les premières compétences, ce sont des compétences IA. Il va falloir, ce qu'on disait tout à l'heure...
Vous n'en démordez pas, il va falloir y aller quoi qu'il arrive.
Il va falloir maîtriser, il va falloir comprendre, il va falloir utiliser. Ensuite, il y a des compétences qui seront des compétences préparatoires aux éléments de décision, c'est-à-dire passer de l'exécution à des tâches plus de décision et des tâches qui vont intégrer des éléments d'orientation, des éléments de conseil, des éléments d'analyse plus poussés. Entre un contrôleur de gestion qui va produire son tableau de bord et capable d'expliquer pour amener à une prise de décision, l'approche est complètement différente. Donc, on voit bien en fait le repositionnement en fait de ces acteurs de fonction support comme partenaires un peu plus stratégiques d'entreprise. Mmh. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va valoriser davantage ces fonctions support. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va quand même faire quelques dégâts. Donc, il va falloir aussi, pour les entreprises, être en capacité de réorienter un certain nombre de profils tout en ne désossant pas totalement des fonctions qui aujourd'hui tiennent aussi par cette valeur humaine, par cette composante humaine. Vous parliez des RH tout à l'heure. Si une fonction RH, il y a une majorité d'automatisation, ça va être difficile d'avoir des accompagnements humains dans les entreprises.
Bon, ce sera jamais de toute façon tout blanc ou tout noir. Il y a Lydia qui demande, l'employeur peut-il valablement supprimer des emplois parce qu'il introduit l'IA dans son entreprise? Ça va peut-être pas être si simple que ça, Malik. C'est peut-être justement ça. Il va falloir une partie de la masse salariale la réorienter, la reformer. Quoi qu'il arrive, ça va demander une vraie réflexion de la part des entreprises.
Absolument. Juste pour rebondir sur les propos de Cyril, avant de répondre directement à la question de l'auditeur, j'allais dire qu'il y a forcément effectivement un impact important pour toutes les entreprises, pour toutes les activités, pour les salariés. Et je pense que typiquement, de mon point de vue, l'IA va affaiblir les plus faibles et renforcer les plus forts. C'est-à-dire que où on se révèle plus fort d'une certaine manière de l'IA parce qu'on a des qualités que l'IA n'a pas, et la principale qualité que l'homme a et que l'IA n'a pas, c'est réfléchir. L'IA ne pense pas. L'IA fonctionne selon un mode probabiliste. Donc, elle ne pense pas l'IA. C'est la raison pour laquelle elle peut avoir des hallucinations où elle raconte, disons-le clairement, des conneries. Parce que c'est des hallucinations. Donc, elle ne pense pas. L'homme, lui, pense. Donc, c'est toute la différence. Donc, ceux qui arriveront à penser et à prendre du recul sur ce qu'ils font, ceux-là vont s'en sortir, les autres ne s'en sortiront pas. Juste un exemple, par exemple, si on est avocat ou si on est juriste, l'IA sait beaucoup plus de choses que je n'en sais. Et donc l'IA est capable, grâce à la base de données qu'elle a, et là c'est toute la question, c'est à quel point sa base de données est solide, mais si on prend des bases de données juridiques, ce sont des bases de données solides. Et donc elle peut puiser dans ces bases de données et sortir une décision que moi je ne connais pas. En revanche, je pense que je serais mieux placé que l'IA pour dire si la décision est applicable au cas d'espèce, pourquoi la décision a été prise, dans quel contexte a été prise et quelle stratégie déterminée avec le client. Absolument. Et pour en revenir à votre question, très clairement, l'introduction de nouvelles technologies,
c'est un motif économique de licenciement possible.
Oui.
Jusqu'à présent, l'introduction de nouvelles technologies n'était quasi jamais invoquée pour justifier des licenciements. On parlait de difficultés économiques, on parlait de sauvegarde de la compétitivité, mais on ne parlait pas d'introduction de l'IA. Juste pour finir sur le sujet, l'IA ne s'introduit pas toute seule, elle ne tombe pas du ciel. Derrière l'introduction de l'IA, il y a d'abord une décision humaine.
Ouais.
Donc on ne peut pas dire « j'ai introduit l'IA, t'es viré, on te coupe la tête ». Non, tu as décidé d'introduire l'IA, et en introduisant l'IA, tu as décidé de me faire remplacer par l'IA. Donc il y a d'abord une décision humaine derrière chaque licenciement ou derrière l'introduction de l'IA.
On verra ce que ça donne effectivement dans les entreprises. On n'a pas fini d'en parler. Merci messieurs, dames. Cyril Queneau, Managing Partner, Directeur RH et Transformation chez SIA. Boutena Burkel, fondatrice du cabinet de conseil The Helper et auteur. Et Malik Douaoui, associé au cabinet d'avocats Deloitte. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Les outils RH à retrouver à 12h30. Et bien sûr en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Très bonne journée à vous.
BFM Entreprises, les outils RH sur BFM Business.